football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Seb Piocel et de Samy Poix avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live, la suite de la deuxième journée de Ligue 1 qui a débuté hier avec la victoire de Reims 1-0 face à Lyon. Vous l'avez vécu sur RMC, vous avez vécu les matchs de cet après-midi et de ce soir sur RMC également. Le Paris Saint-Germain qui a battu Guingamp 3-1, Montpellier qui est allé gagner 2-1 à Amiens, Rennes a battu Angers 1-0, Dijon a battu Nantes de 2-0. On n'a pas insisté là-dessus, mais Nantes qui a terminé le match à 10 également. Ils ont joué 10 bonnes minutes à 10 contre 11 et 0-0 entre Monaco et Lille. Autre match également de ce soir, le 1 partout entre Caen et Nice. On va se plonger justement dans ce Caen-Nice. Caen qui a marqué le premier, pénalty de Bamou. Pénalty, franchement, on critique jamais l'arbitrage dans l'after. On a le VAR maintenant, voilà l'assistance vidéo. Je comprends pas comment il peut siffler pénalty là-dessus. Je comprends pas d'où RL fait faute. Il a accroché le premier sur le.
C'est le canet qui fait d'abord la première.
Oui,
faute.
En plus il est tiré par le maillot.
Mais et puis après non, moi à aucun moment je vois que RL il met les deux mains sur le l'attaquant canet.
Non mais
c'est
on
un
voit
duel. Hein, que...
Non mais clairement il y a clairement pas pénalty là-dessus. Je veux dire il y a une erreur et je comprends même pas pourquoi il demande pas l'assistance de la vidéo là-dessus. Je veux
en
dire...
fait c'est ça le plus curieux, c'est qu'il demande parce qu'il est dans le cas de figure. Alors on voit qu'il discute avec le car régie qui lui dit certainement vas-y laisse mais lui il a le droit de demander et d'aller voir. Mais enfin bref, toujours est-il qu'il y a eu pénalty, que ça a été transformé par Babou.
Et surtout que ceux qui contrôlent quand même le VAR, il y a un arbitre non qui ouais. qui alors mais il doit quand même
non,
voir.
Mais il lui dit je pense, mais il doit lui dire vas-y c'est bon t'as raison quoi. Ouais, bah après c'est ça reste à l'interprétation de l'arbitre,
ouais, ils ont validé sa décision.
C'est, mais ça se trouve lui peut voir les images et dire j'ai raison. Hein. C'est le VAR, ça.
C'est comme
ça.
Le but non refusé à Guingamp. Je trouve que Turpin là-dessus, il se précipite un peu trop vite pour siffler, alors qu'il aurait dû justement laisser se dérouler l'action jusqu'à son terme et après éventuellement revenir. Mais bon, lui, il a toujours son air arrogant.
Il y a Bayes aussi qui marque de la tête. Si c'est faute, j'ai pas compris en fait.
Pareil.
Ouais. Je vois pas en fait. Ouais.
Alors Bayes, il a pas de cul parce qu'il a celui qui a refusé. Il y en a un deuxième qui se joue sur. Bon là, ouais. C'est la
mais sur celui qui a refusé. À la rigueur, s'il y a une faute, c'est sur le canet, je crois, qui est ceinturé. Ouais. Je comprends pas non plus pourquoi il refuse.
Et égalisation donc de Ganago à 8 minutes de la fin. Donc un partout entre ces deux équipes. Alors Nice qui avait perdu lors de la première journée face à Reims 1-0. Le PSG avait perdu également. Le PSG avait battu pardon Caen 3-0 lors de la première journée également. Nice qui a du mal en ce début de saison quand même.
Bah oui, bah tout à l'heure on parlait justement des nouveaux entraîneurs qui viennent et où les joueurs doivent s'adapter à leur philosophie. Là, c'est vraiment le cas quoi, parce que bon, bah Vieira, il arrive quand même dans une équipe où vraiment pratiquement il y a pas mal de choses quand même à reconstruire. Il y a quand même pas mal d'éléments qui sont partis et pas les moindres. Les Pléa, les séries, Balotelli, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc c'est vraiment compliqué. Je vais dire que Nice joue un peu. On essaye un peu de s'en sortir, on essaye de faire un peu, on essaye un peu de rafistoler un peu et voir un peu comment ça va aller. Mais Nice, Vieira, il arrive quand même dans une équipe qui ça va être très compliqué pour lui. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de dossiers en suspens. Voilà, en plus.
C'est affaibli, l'équipe s'est affaiblie donc de joueurs majeurs. Après, dans la philosophie, d'après ce que j'ai compris, il souhaitait être un petit peu dans la continuité de Lucien Favre.
Oui, mais donc, ça, là, déjà, on voit qu'on le voit pas trop, quoi. Même effectivement
c'est
dans
là,
la possession.
C'est de là où on parle que on peut avoir envie de faire des choses. Il faut avoir les joueurs pour le faire. Et quand il n'y a pas un Seri qui est là pour orienter le jeu ou un Pléa qui est là pour faire les bons appels et puis marquer.
Et surtout un joueur, là on parle de l'avancante, mais un joueur qui donne confiance un peu à l'équipe. On sait que une équipe a souvent besoin d'un avancante où ils ont confiance, où ils se sentent rassurés. Actuellement, on sent que cette équipe de l'OGC Nice n'a pas forcément ce joueur référent, quoi, qui les rassure, quoi, tu vois, qui les permet de jouer libéré, on a cette avant-centre-là, on sait qu'on peut marquer à tout moment.
Mais au-delà de l'avant-centre, hein, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les fameux leaders techniques, oui, Balotelli, bon, il est parti, il est là, mais il est parti dans sa tête, ils ont perdu Seri, qui est quand même un joueur qui est important aussi, ça joue, ça aussi.
Même Pléa
aussi, c'est vrai.
Parce que, c'est dans une équipe, je crois que Sébastien, quand on a l'avant-centre qui est là, on sait qu'à tout moment il peut marquer, je peux vous dire que tu joues quand même avec une certaine aisance, t'es rassuré de quelque chose, tu vois, et là on sent que cette équipe niçoise, elle est un peu perdue.
On va accueillir Quentin, il est supporter du gym et il nous a appelé au 32-16, il est en direct dans l'after. Bonsoir Quentin.
Salut messieurs.
Bonsoir.
Salut.
Comment ça va Quentin?
Bah, très bien, et toi, comment tu vas?
Bah écoute, je te remercie, tout va bien. T'es le premier à me le demander ce soir. Tout le monde s'en fout de comment je joue. Enfin, bref, en même temps, je suis pas payé pour ça. Quentin, un point après deux journées, c'est pas fou hein, quand même hein, pour Nice. Hein.
Alors, c'est je pense que beaucoup de supporters niçois seront d'accord avec moi. C'est absolument pas étonnant. Pour plusieurs raisons, il y a plein de choses à exposer. Donc, si on veut faire un résumé assez rapide, déjà, je trouve que malheureusement, et Dieu sait que je l'apprécie, hein, River a fait quand même pas mal d'erreurs encore une fois sur ce mercato-là, que ce soit en termes d'anticipation. Hein, je pense qu'on est au courant depuis au minimum un an, allez, sans être méchant, six mois, que Pléa, Seri et Balotelli vont être un problème à régler pour l'été. Alors, Seri et Pléa, ça s'est fait assez rapidement, donc il y a eu quand même une rentrée d'argent assez importante. Balotelli, ça traîne depuis trois mois avec Marseille et deux mois vraiment intensément. C'est toujours pas réglé, on n'a toujours pas de numéro 9 à titrer, le bilan il est blessé, Ganago c'est encore léger, mais bon il marque ce soir donc c'est bien, mais on est vraiment extrêmement léger, on n'a pas de leader sur le terrain, à part Dante, et quand il s'y met, des fois il est vraiment pas bon. Donc voilà, au-delà du recrutement, si on parle de Vira et du jeu du match d'aujourd'hui, on va pas dire que c'est décevant, on va lui laisser du temps à Vira, mais il y a des choses que je comprends pas, et c'est le cas sur Twitter avec beaucoup de supporters, on en discute, mais c'est assez incompréhensible, on a l'impression qu'on se met en handicap avant le match. Comment ça fait qu'un mec comme Lesmelou, il n'est absolument pas ailier, il perd un nombre de ballons incalculable sur le côté, et il le met ailier, Vira, il met Tamizé au milieu. Pourquoi on commence pas dès le début avec un Lesmelou à la place de Tamizé dans le milieu, donc pour sécuriser le milieu de terrain, et à droite un Frarfi, un Ganago ou autre quoi. Et si vous avez remarqué, je pense que tout le monde l'a remarqué, on a commencé à jouer une fois qu'on a été mené. Donc je vous ai entendu pour le pénalty, etc. Honnêtement, je suis pas... En toute honnêteté, le pénalty, certes, il est un peu sévère, mais par rapport à tout ce qu'a fait Caen avant, le petit Micmac avec la VAR, etc. avant, c'est pas immérité, il mérite d'ouvrir le score. Hein. Après, Caen a fermé le jeu, nous on a essayé de jouer, mais on a commencé non,
après,
à
on
jouer.
Parle pas, après on parle pas de mérite, Quentin, on parle oui. De la décision, objectivement, ouais, froidement.
Ce fait de jeu, on
ouais,
parle.
Mais je pense que s'il n'y a pas eu le Micmac en première mi-temps avec Bates, etc., il le siffle pas.
Ouais,
je pense que ça doit
oui,
jouer.
Oui, t'as raison, après, ça peut jouer. Ouais.
Après, voilà, c'était une pelouse assez grasse, un match un peu compliqué. Quand on a ouvert le score, ils ont fermé tout de suite, donc j'en veux pas Vira, il a le temps de se mettre dans le bain, etc. Mais ce qui est quand même dingue, on va pas dire que c'est honteux, on va pas s'emballer, on va rester calme. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'on se retrouve à la troisième journée, là on va être à la troisième journée, sans numéro 9, sans leader, et sans vraiment de certitude qu'on n'en est pas dans le jeu avec Vira, parce qu'il vient d'arriver, je comprends. Mais c'est pas normal alors qu'on est au courant depuis, c'est pas comme si on était prévenu à la dernière minute, on est au courant qu'il y aura des problèmes pour Balotelli, Pléa et Seri. On le fait et on se retrouve sans numéro 9, quoi. C'est un peu décevant, quoi.
Ce qui est étrange aussi, justement, à Nice, moi, je trouvais que depuis quelques années, au-delà des bons coups qu'ils avaient fait avec Ben Arfa ou Balotelli, c'est que justement, ils étaient dans l'anticipation. Ils allaient prendre des bons joueurs de Ligue 2. On avait vu Cyprien, Lesmelou. Et c'est vrai que là, sur ce mercato-là, alors qu'ils savaient qu'ils allaient rentrer de l'argent, quand même, je sais pas, j'ai l'impression que, ou alors ils vont nous sortir 3-4 joueurs d'un coup et, moi, j'y crois pas trop, parce que, bon, en général, quand tu fais ça dans la précipitation, c'est jamais évident. Et c'est vrai que là, c'est un peu décevant, alors que, justement, quand tu fais venir un Patrick Vieira, champion du monde, reconnu de partout, normalement, tu as envie de le mettre dans les meilleures conditions, et tu as envie de lui faire plaisir. Et pour ça,
bah, ouais, surtout, ce qui est frustrant, c'est qu'en plus, on connaît les joueurs, là, normalement, il y a peut-être 8 chances sur 10 qu'on signe Sanabria. Mais ça du Betis Séville d'ailleurs qui n'a pas joué ce week-end avec la défaite 3-0 me semble-t-il du Betis contre Retafe ou Levante. Et normalement ça devrait être lui qui vient, mais ça fait au moins un mois qu'on en parle de Sanabria et malheureusement du coup on perd notre premier match contre Reims, but à la deuxième minute. On a 20 tirs dans le match, 2 cadrés, on n'a pas de 9, donc c'est compliqué. Là c'est pareil, on a pas mal d'occasions, il n'y en a pas une au fond. On se retrouve avec un but de Ganago, du Merci, je sais pas comment il l'a mis assez miraculeusement. Là on reçoit Dijon, je suis pas du tout confiant quand on voit Dijon. Ils donnent à fond, quoi. Et nous, on est vraiment pas serein à ce niveau-là. Et c'est vrai que je trouve ça dommage de se priver d'aller de 9 points potentiels en n'ayant pas recruté un 9, alors qu'il fallait gagner quelques millions d'euros de plus. Et ces millions d'euros, on les avait avec Pléa et Seri, quoi. C'est ça qui est frustrant.
Après, sur l'aspect psychologique, même si ça reste qu'un point, ça c'est que de la parlotte, le fait d'avoir été mené, d'être revenu au score et d'avoir pris leur premier point.
C'est le point positif.
Voilà, je pense que déjà, c'est, voilà, au moins, tu as pris ton premier point et tu peux
être.
Tiens, et puisque tu faisais allusion, hein, le prochain match de Nice, ce sera à domicile face à Dijon. Ouais, le 31 août prochain, il y aura un déplacement à Lyon. Il y a un communiqué de presse qui a été divulgué aujourd'hui par le GIM. Voilà, alors je cite, un arrêté préfectoral interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice l'accès au Groupama Stadium et à ses abords le 31 août prochain. À nouveau, l'ensemble des amoureux du GIM voient leur passion entravée. Le club club le déplore vivement. Donc interdiction de déplacement pour les supporters niçois à Lyon le 31 août prochain.
Alors, et ce qui est incompréhensible, ce qui est incompréhensible, c'est que l'année dernière, on a été autorisé à la dernière journée. Et alors qu'il n'y a eu aucun débordement après, que ce soit des supporters niçois et des supporters lyonnais. Alors évidemment, on n'est pas les meilleurs amis du monde, hein, loin de là. Mais par contre, il n'y a eu aucun débordement d'un côté comme de l'autre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, il faudrait quand même nous expliquer à un moment donné ce qui se passe sur les interdictions, quoi. Quand on parle de progrès, etc., d'amélioration dans le foot, que ce soit dans le jeu ou en dehors du stade, etc., là, c'est quand même incompréhensible, sachant qu'on a été autorisé l'année dernière, quoi. Enfin, c'est pas...
Bah, surtout au moment où on reparle des tribunes debout, c'est vrai que...
Ouais, exactement.
De priver des supporters. Alors, surtout, ça s'était bien passé. C'est dommage pour le football, hein, surtout pour votre équipe.
Merci, Quentin, d'avoir été avec nous.
Pas de soucis. Je peux juste dire une dernière chose?
Oui.
J'espère simplement, alors évidemment, il m'entendra pas, mais s'il ira jamais écoute ce message, mais j'espère qu'on n'aura pas la même chose qu'avec Lucien Favre, même si Lucien Favre était un excellent entraîneur, qu'on le remercie pour tout ce qu'il a fait. Je rappelle juste que l'année dernière, on a perdu 26 points après avoir mené au score, le record d'Europe l'année dernière, ce qui est quand même assez fou. Donc j'espère qu'il va nous inculquer, au-delà du jeu, un état d'esprit vraiment qui soit à la hauteur à chaque match.
Bah, voilà, ce soir, déjà, c'est l'inverse, hein. C'est toi qui vole un point à l'adversaire, c'est toi qui es mené. Donc,
Oui, c'est pas faux, mais au moins, voilà, ça part bien. Voilà, bonne soirée les gars.
Merci, salut Quentin. Donc, tiens, sachez, il vient de passer en conférence de presse Patrick Vieira, il a déclaré que le point a été mérité, qu'ils avaient essayé de jouer mais que ça avait été difficile. Voilà, il a dit qu'il y avait quand même du positif. C'est vrai que le fait qu'ils aient été menés, qu'ils soient revenus, ça a très certainement dû faire plaisir à Patrick Vieira. Autre match de cette deuxième journée de Ligue 1, c'était cet après-midi, le Paris Saint-Germain qui a battu Guingamp 3-1, le PSG qui a été longtemps mené, hein. Premier but signé Nolan Roux. Les anciens Messins étaient à la fête, hein. Mollet a marqué beau but d'ailleurs avec Montpellier face à Amiens. Nolan Roux a marqué le premier but à la 20e. Égalisation en seconde période seulement pour le Paris Saint-Germain. Neymar à la 53e et ensuite il y a eu un doublé de Kylian Mbappé à la 82e et 86e. Victoire 3-1 du PSG. Voilà, le PSG qui s'est quand même fait peur. Ça n'a pas été un très très grand match du Paris Saint-Germain, notamment la première période. On va réécouter dans quelques instants d'ailleurs Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ils ont eu du mal, hein, les Parisiens, cet après-midi. Hein.
Bah, il y a eu deux matchs, en fait. Il y a eu
une première mi-temps, une deuxième mi-temps.
Ouais, oui. Alors, il y a eu le sans Mbappé et avec Mbappé.
Parce aussi.
Bon, dès l'instant où il est rentré, bah, on a vu toute la différence. Alors, on est à moitié surpris, hein, mais pas du tout surpris. Parce qu'il est champion du monde, ça a été l'homme fort de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Voilà, d'entrée, bah, il a amené de la profondeur, il a amené sa volonté toujours d'aller fixer, de faire mal à l'adversaire. Et voilà, c'est pas une piqûre de rappel parce que bon, ils sont tellement au-dessus.
Il manquait du monde, hein, encore aujourd'hui. Il y avait pas Verratti, il y avait pas Kurzawa, il y avait pas Cavani. Voilà, il a fait pas mal tourner encore.
Les jeunes, on les a vus depuis le début. C'est quand même intéressant. Et puis si justement, on essaye de retenir les jeunes parisiens qui souhaitent partir à chaque fois dans d'autres clubs en les faisant jouer. Donc là, ils ont du temps de jeu. Bon, ils ont pas démérité à part l'erreur sur le premier but. Donc là, au moins, ils ont un peu de temps de jeu. Il faut qu'ils en profitent. Après, c'est sûr, quand tout le monde va rentrer, ça va être différent. Mais comme quoi, s'ils s'endorment, s'ils jouent un peu contre nature, Guingamp, c'est pas mal, mais ils vont tomber contre des équipes aussi dans le même registre qui vont se donner à 200% parce que c'est Paris. Et par moment, il pourrait se faire
avoir. J'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Guingamp. Moi, je trouve que Guingamp a très très bien joué, même si c'est vrai qu'ils étaient en bloc bas. Mais quand ils avaient le ballon pour justement aller rapidement vers l'avant, ils l'ont très bien fait par moment. Après, effectivement, le talent de certains joueurs à Paris font que voilà, la moindre erreur est pratiquement sanctionnée derrière. Mais je trouve quand même que Turpin sur ce match-là n'a pas forcément aidé cette équipe guingampaise parce que le but pour moi était vraiment valable. Je pense qu'au début
de Benezé,
il était complètement valable. Au début, je crois que c'est un hors-jeu peut-être qui voit. Finalement, après, il essaye de deviner une faute pour moi où il y a pas vraiment.
Et ça faisait
faute.
2-0 à ce moment-là.
Et ça faisait exactement 2-0 parce que après derrière, il y a contact. Dans la surface de réparation, je me rappelle plus du Guingampé qui est bousculé par Marquinhos ou Thiago Silva, ou pour moi, il aurait pu aussi avoir peut-être penalty parce qu'on l'obstruction, on la voit clairement. Mais, quoi.
Alors c'est intéressant que tu parles de Guingamp aussi parce que c'est vrai qu'il faut quand même en dire un mot également.
Ah bah
Guingamp,
oui,
finalement, ils font un bon match face à Saint-Étienne, ils perdent 2-1 et là ils font notamment une belle première période et un bon match face au Paris Saint-Germain. Bon, ils finissent par craquer parce qu'il envoie l'artillerie lourde en fin de match, Tourelle aussi, et ils perdent la 3-1 aussi. Ça fait 0 point pour Guingamp après deux journées. Bon, ils jouent Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain aussi. Tiens, il y a un sondage qui vous a été lancé par Laurent Fallas sur le compte Twitter de l'After. Timothy Weah qui était titulaire au cours d'envoi de ce match en latin, puisqu'on le rappelle, Cavani n'était pas là. Le PSG peut-il se contenter du fils de Georges Weah comme remplaçant à Cavani, ou est-ce encore trop tendre pour le standing du Paris Saint-Germain? Vous êtes 63% à avoir à répondre non, il faut plus costaud, et 37% à répondre oui, il fera la maille. Votre avis là-dessus, est-ce qu'il est encore trop tendre, Weah, justement, pour assurer la le poste d'avant-centre au Paris Saint-Germain?
Non, mais il faut être clair, quoi. Voilà, pour ce genre de match là, comme Guingamp contre Caen, contre Nice, ça va être parfait pour lui. Pourquoi? Parce que pour apprendre justement son métier, pour apprendre qu'est-ce que c'est l'exigence d'être au Paris Saint-Germain, être dans un grand club où on attend déjà de toi d'être efficace dans ces matchs-là. Maintenant, quand ça va être les gros en Europe, non, il faudra quand même Cavani, hein. Il faudra Cavani, il faudra tout le monde.
La question qui est posée, s'il n'y a pas Cavani, il y a Mbappé. Dans l'idée, mais parce que c'est, et puis si Mbappé est dans l'axe, il y aura Di Maria sur un côté.
Après, l'idée, c'est plus de dire, dans ce cas-là, si Cavani n'est pas là, est-ce qu'il faut aller chercher un autre joueur, tu vois?
Ouais, mais après, on parlait des jeunes, encore une fois, même si le PSG, le club de Paris souhaite que ils aillent au moins en demi-finale de Ligue des Champions, qu'ils soient compétitifs, il n'y a pas de souci. Mais ils veulent en même temps garder leurs jeunes. Donc, soit ils décident dès le départ de dire, ouais, on le prête pour qu'il s'aguerrisse, un peu ce que font Monaco. Soit dans ce cas-là, eh ben, ils se disent non, on compte sur lui, et puis au fur et à mesure, il va s'améliorer, il va prendre confiance. Non, moi je pense que c'est suffisant.
Weah, qui était donc titulaire au coup d'envoi de ce match, qui a pris part donc forcément à la première période du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, à l'issue du match, il n'était pas du tout satisfait par l'entame de son équipe au cours de cette rencontre. Écoutez-le, l'entraîneur du PSG.
C'est pas possible de commencer et de jouer un match comme nous avons joué dans la première mi-temps. Nous n'étions pas prêts pour cette match ici, mais c'était clair que Guingamp est une équipe très intensive, et il joue avec courage et avec beaucoup de qualités individuelles, avec beaucoup de duels de la tête. C'était clair. Ils ont joué un top match contre à Saint-Étienne, et nous étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts pour ça, pas du tout.
Il y a un autre Thomas qui est d'accord avec Thomas Tuchel, justement, et les supporters du PSG. Il nous a appelé au 32-16. Bonsoir Thomas.
Salut Nico, salut messieurs.
Bonsoir. Ça.
Comment tu vas Thomas?
Bah, je veux bien, après une victoire comme ça, j'ai eu un peu peur en première mi-temps, vous en avez parlé.
Il est lucide, hein, Tuchel. Enfin, t'apprécies son discours, je suppose que t'es d'accord avec lui d'ailleurs.
Bah, il tire un constat qui est clair, de toute façon, c'est dur de dire le contraire quand on voit la première mi-temps du PSG. Il assume ses choix parce qu'il fait jouer les jeunes. Je pense qu'il insiste, alors pour quelle raison, je sais pas, est-ce qu'il veut aussi montrer que à sa direction qu'il a encore des postes à combler au niveau du recrutement, je sais pas, mais en tout cas il assume ses choix et ça a bien tourné, dans le sens où oui, ça aurait pu faire 2-0 pour Guingamp, mais la réaction est appréciable aussi en deuxième temps. Mais bon, après la réaction, mais bon, c'est quand même l'entrée d'un joueur qui fait tout aussi, je veux dire. Enfin, c'est quand même l'entrée d'Mbappé qui déclenche tout, quoi. Son entrée a permis. C'est incroyable à quel point ce gamin a une influence maintenant sur son équipe. Il a redonné un autre visage. Il a redonné un autre visage au PSG en deuxième mi-temps, et c'est grâce à lui que le PSG a remonté la pente et a gagné ce match.
Vous êtes très nombreux d'ailleurs à réagir sur le hashtag RMC Live sur la jeunesse de cette équipe, justement, du Paris Saint-Germain. Il y a notamment Paris Sporting qui nous dit: la première mi-temps, on a vu la limite de certains Titi, soyez indulgents s'il vous plaît, car le trio du milieu, c'était quand même Nkunku, Bernad et Rabiot qui est en pleine négo. Après, c'est un choix aussi de la part de Tuchel, j'imagine, de la part de la direction du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est recevable de dire oui, il faut être indulgent avec ce Paris Saint-Germain qui est très jeune finalement?
Mais surtout qu'il faut pas oublier que
Ils ont quand même 4-0, 3-0, face à Monaco au Trophée des Champions, et face à Caen aussi.
Non, mais Nicolas, il faut pas oublier qu'un entraîneur, quand il arrive dans un club, il est là aussi pour faire progresser les jeunes du club. Donc il profite actuellement justement qu'il y a eu la Coupe du Monde, que certains qui ont participé à cette Coupe du Monde ne sont pas encore revenus ou ne sont pas encore prêt physiquement, pour justement donner un peu du temps du jeu aux jeunes. Mais rapidement, je crois que les jeunes vont commencer à disparaître du 11 parisien.
Tu penses pas, toi, qu'ils vont être plus intégrés que ça avait été que les années précédentes?
Mais j'espère, parce que j'espère. Puisque...
Moi, je pense que Tuchel, il est aussi là pour ça.
Hein, moi, j'en suis sûr. C'est quelqu'un, ils l'ont pris aussi pour gagner des titres. Il n'y a pas de souci. Oui. Mais ils l'ont pris aussi pour ça, la faculté à faire progresser les jeunes et surtout à avoir la volonté de les lancer. C'est surtout ça, parce que la qualité des joueurs parisiens, donc on va dire pendant la formation, on sait qu'elle y est. Alors que pendant un moment, elle y était pas.
C'était un peu. Ah bah là, ils ont piqué leurs jeunes par tous les plus gros clubs européens.
Donc le but, c'est aussi de dire, c'est pas le tout de leur faire signer des contrats pro. Ça, c'est, on va dire, c'est plus facile. C'est à un moment donné de dire, voilà, on va vous donner un peu de temps de jeu. Bien sûr qu'il y a des stars, il y a un effectif qui est énorme en termes de qualité. Mais enfin, il faut pas leur taper dessus, hein. Comme tu l'as dit, Nico, ils ont quand même gagné 4-0 contre Monaco lors du Trophée des Champions, 3-0 lors de la première journée. Là, même s'ils ont été un peu mis en difficulté et qu'ils auraient pu faire 2-0, ils gagnent 3-1. Ouais. Donc non, moi je pense qu'il faut être indulgent et
il faut aussi voir à terme ceux qui peuvent entrer dans la rotation quand même.
Non mais justement, parce en les mettant, on peut voir. Si on les met pas, on peut pas savoir.
Oui, bien sûr, mais quand tous les joueurs seront à 100% et que les postes seront naturellement doublés, je pense au retour de Daniel Alves et là on parle ce soir de Felipe Luis qui pourrait débarquer. Je pense que au milieu, si Verratti fait une saison complète en arrêtant de se blesser toutes les trois semaines, ça va être dur à ça va être dur pour des mecs comme Bernet ou Dagba de pouvoir jouer régulièrement. Celui qui a le plus chance de jouer au final, c'est Ouya. Mais Ouya, moi je le trouve un peu tendre pour assumer, on va dire, un vrai rôle de doublure derrière Cavani.
Mais après, si tu prends des stars, on va dire, on le voit avec Di Maria un petit peu, quand ils sont au complet, ils jouent pas. Il faut aussi après gérer les égos, il faut aussi gérer ce type de joueur là. Donc si on sait qu'il y a de la qualité, bien sûr que aujourd'hui Ouya c'est pas Cavani, heureusement d'ailleurs. Mais si on lui prend quelqu'un pour ça va lui boucher l'espace, et il va jamais jouer. Donc moi c'est mon avis, comme j'ai dit, t'as Mbappé. Donc s'il y a pas Cavani, tu peux avoir Mbappé, et si tu as pas Mbappé sur un côté, t'as Di Maria ou Nkoukou qui fait un super début de saison.
Il y a Tweetos sur Twitter qui est d'accord avec toi. Il dit les gars, quand Cavani est pas là, le remplaçant c'est Mbappé justement.
Oui,
j'aime bien.
Il dit pareil que Piocel.
Non mais lui c'est Mbappé, c'est depuis l'année dernière qu'on sait que
côté quand même parce que Cavani jouait dans l'axe,
mais bon même lui déjà il avait réclamé que avant-centre il pouvait jouer. On sait très bien que c'est pas une surprise. Maintenant en plus où on dirait qu'il a progressé Mbappé, c'est quand même dans les face-à-face avec les gardiens. Ouais. Une sérénité et une maturité, des fois il ratait un peu ses face-à-face avec les gardiens.
Sur le deuxième but, c'est incroyable, on s'en rend pas compte, ça a l'air facile.
Exactement.
Sa louche, c'est la louche de Messi quand il dribble le Boateng et qui la finition. Et oui, il a l'air d'avoir progressé là-dessus. Et c'est de plus en
plus. Le gars, il est champion du monde à 19 ans. Il a cassé, il a tout cassé. Il revient, il est gonflé à bloc.
Nicolas Pelletier nous a trouvé une petite statistique qui est pas mal. Mbappé qui est devenu le premier joueur de moins de 20 ans à atteindre les 30 buts en Ligue 1 sur les 45 dernières saisons. Voilà, c'est quand même énorme, hein, ce qui fait qu'il y a Mbappé.
Il bat tous les records.
Et tiens, on va l'écouter parce qu'il a marqué Mbappé. Neymar également. Alors Mbappé qui arrive avec un nouveau statut, tu viens de le dire, Seb, celui de champion du monde. Et alors tout à l'heure, en zone mix, on lui a posé la question de savoir qui était maintenant le leader du PSG. Est-ce que c'est lui ou Neymar?
Les choses, elles sont très claires entre nous, et le coach l'a mis aussi au clair. Neymar est notre leader. Voilà, on essaye de l'aider. Bon, aujourd'hui, c'est lui qui m'a aidé, mais voilà, je vais essayer de l'aider dans les prochaines semaines.
Voilà, Thomas, et il est toujours aussi frais, ce Mbappé quand même. La star, ça reste Neymar, Thomas.
On a le droit de pas le croire.
La star par rapport à
le leader.
Le leader, je pense qu'encore le leader technique. Je pense que ça reste encore Neymar. Mais je pense qu'Mbappé n'est vraiment pas très loin. Mais je pense que c'est dû peut-être à l'âge et à l'expérience aussi dans les grandes compétitions, même si on l'a dit, Mbappé est déjà champion du monde. Mais par rapport à sa carrière, Neymar a plus prouvé son talent, même si le talent d'Mbappé est déjà immense. Mais attention, parce qu'il arrive à grands pas derrière Neymar, et je pense que ça peut être la star numéro 1.
Ça va peut-être booster Neymar aussi, hein.
Non mais
on lui donne envie de se barrer aussi. Hein.
Non mais ça c'est, je crois que c'est en interne parce que la star dans les cœurs des Français et des fans c'est Mbappé, c'est clair, des journalistes,
déjà.
Voilà c'est clair. Et ça Neymar, je crois que ça il le sent, il le sait.
Non,
ça.
Par rapport à ton livre.
Après, moi sincèrement les mecs, en termes de, alors je sais pas de quelle dimension on parle, si on parle juste de l'aspect sportif, mais de tout ce qui est au-delà, Neymar c'est quand même c'est du très très lourd. Hein, les gars.
Ah non, c'est du très lourd mondialement. Neymar
de jeu, même si Mbappé c'est beau.
Je pensais que tu disais ça aussi par rapport aux joueurs. Je pense que Neymar, de par les joueurs, il est vu comme le leader technique de
oui,
l'équipe.
Ouais.
Après, comme dit Sam, je pense que oui, Mbappé dans le cœur des Français et des supporters, il est même devant Neymar, j'en suis sûr.
Après, dans le vestiaire, ça peut être la même chose, hein. Ça peut être scindé aussi, hein. Il y a des mecs qui considéreront que c'est Neymar, d'autres qui considéreront que c'est Mbappé, par exemple.
Bah, vu comment le poids qu'il a sur la deuxième mi-temps et la façon dont il transforme l'équipe, c'est sûr que à terme là aussi, il peut être considéré comme le numéro un en termes d'attaque, en termes de technique au sein de l'équipe. Oui, c'est sûr.
Je sais pas, parce que le vestiaire, il est encore en tendance un peu sud-américain, donc peut-être que le vestiaire aura tendance toujours à propulser peut-être un peu Neymar. On sait qu'en plus Thiago, il est là, c'est son capitaine, donc.
Ah, mais faut pas s'élever non plus un duel pour ça. Et il vaut mieux avoir 2, 3, 4 stars qu'une seule.
C'est sûr.
C'est-à-dire que quand il en manque un.
Ouais, mais l'ego, ça existe surtout à ce niveau-là.
Non, mais l'ego, on sait. Et Neymar, au niveau planétaire, le gars, il est suivi par je sais pas combien de millions de personnes. Il est hyper reconnu.
Mais attention. Au niveau de l'ego, hein, parce que Neymar, il sait quand même que il n'a pas le ballon d'or, il n'a pas gagné de Coupe du Monde. Là, il sait que quand même, il y a un gars qui a 19 ans, il n'a pas le ballon d'or, mais il a déjà gagné.
Ouais, mais donc, ça doit le booster dans ce cas-là.
Ah, mais oui, j'espère que ça va le booster tout le long de la saison.
Non, mais ils seront jamais dans un match, ce sera jamais un contre un, ils seront jamais dans cette mentalité-là, j'espère pas. Et après voilà, je pense qu'ils savent qui est qui, et voilà, Mbappé l'a répété encore aujourd'hui, notre leader c'est Neymar. Là, je viens de voir à l'instant un post de Neymar sur Instagram qui félicite Mbappé de sa performance d'aujourd'hui. Donc je pense qu'ils se considèrent vachement les deux, ils savent qu'ils ont un rôle très important au sein de l'équipe, faut les associer.
Ouais, et puis les gars, oubliez pas Cavani non plus.
Le mec qui marque 30 buts par saison.
Mais il est pas là pour l'instant.
Oui, non, mais bon, faut pas l'oublier non plus.
Non, mais en plus, les deux, ils se taquinent à l'entraînement, Neymar, Mbappé,
Thomas, merci.
Ouais, merci à vous.
À bientôt, Thomas. Bonne soirée. À très très vite, Thomas.
Bye, Thomas.
Tiens, une petite information également. Vous savez qu'à Bordeaux jouera demain face à Toulouse à 17h le derby de la Garonne. Alors à Bordeaux, Romain Poyet. Oh le lapsus. Gustavo Poyet. Romain Poyet, qu'on l'embrasse. Du côté d'Amiens.
Dimitri.
Non, Payet. Romain, le mec. Je sais pas pourquoi je pense à Romain, voilà, qui est du côté d'Amiens. Gaëtan Laborde qui est parti, vous le savez, à Montpellier. Alors ça a valu du coup ce qu'on a suivi du côté de Bordeaux et Payet qui a été mis à pied. Il s'est exprimé en zone mixte sur son transfert tout à l'heure. Gaëtan Laborde, il a déclaré tout a été fait dans les règles. Hein. On avait eu son agent, hein, Christophe Hutto, hier également sur RMC, et il avait un petit peu expliqué ce qui s'était passé durant la semaine également.
Donc c'est Payet qui raconte des conneries alors.
Ou c'est Payet, ou c'est non, parce que au final quand t'écoutes ce qui se dit. Poyet dit, moi j'ai pas été mis au courant par mon président. Hutto dit, moi j'ai eu le président qui m'a dit qu'il allait prévenir Poyet.
Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a convoqué la veille par contre. Ouais. Parce que dans le groupe, il était dans le groupe. Ils ont fini à 17 hein, dans le groupe.
Messieurs, dans quelques instants, Julien Momon sera avec nous. Lui qui a brillé cet après-midi une fois encore sur RMC Sport 1. Parce qu'on va parler de la Première Ligue, messieurs. Il y a eu du spectacle. Il y avait même Sébastien Piocel au commentaire.
Il y a Harry Kane aussi qui a marqué en août, ça y est.
C'est fait. Il y avait surtout un Chelsea Arsenal de taré. À tout de suite, on vous attend au 32-16 pour revenir sur ce Chelsea Arsenal notamment.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Seb Piocel et de Samy Poix. Vous êtes avec nous également sur le hashtag RMC Live, bien entendu, au 32-16. On était revenu sur la deuxième journée de Ligue 1. Place au football étranger. Julien Momon a brillé, je le disais tout à l'heure, sur SFR Sport. Lapsus, RMC Sport 1. J'ai fait le même lapsus que Luigi Collange tout à l'heure. Pour la Première Ligue, bonsoir, rebonsoir, rebonjour.
Je ne brille que grâce à toi, faut le dire aussi.
C'est vrai. Voilà, je ne veux pas te démentir. Tes informations sont bonnes. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On n'avait pas dit que Simone Rovira allait être là.
Comment ça va? J'ai mis une place, une chaise.
Comment va ta maman, Simone?
Très bien.
C'est vrai, ça va?
Ouais.
Alors, tu vas revenir dans quelques instants sur notamment la première de Cristiano Ronaldo avec la Juve et la première de Cristiano Ronaldo en Serie A aussi. La Juve qui a beaucoup, beaucoup galéré pour sa reprise.
Parce que Ronaldo sont plus les buts qu'il a raté que celui qu'il a mis.
C'est vrai?
Oui,
il est pourri au championnat. Même Cristiano ne marque pas. Mais avant, la Première Ligue avec toi, Julien. Alors, il y a eu notamment un Chelsea-Arsenal absolument tonitruant, victoire 3-2 des Blues, un match complètement taré.
Complètement fou, avec d'abord Chelsea qui a littéralement surclassé Arsenal en début de match, qui menait 2-0, et puis qui en fin de première période s'est effondré, notamment défensivement, avec Arsenal qui a multiplié les centres et qui a fini par revenir à deux partout à la pause. Donc c'était clairement un match finalement où les attaques semblaient mieux préparées que les défenses. On a plus vu le potentiel offensif de chaque équipe que leur faculté à être solide, ce qui est un petit peu curieux généralement. Quand un entraîneur arrive, c'était de nouveaux entraîneurs, on met peut-être d'abord en place la structure défensive, mais c'est pas forcément le cas encore entre les deux équipes. Et Chelsea qui a finalement fait la différence en fin de match grâce à Eden Hazard qui est encore entré en cours de match et qui, comme à Huddersfield lors de la première journée, a montré qu'aujourd'hui, même s'il a pas forcément 90 minutes dans les jambes, ben c'est peut-être le meilleur joueur de Premier League individuellement en tout cas.
Alors c'est vrai que si on fait un bilan après deux journées, on a Chelsea qui a 6 points sur 6. Et alors Arsenal, c'est vrai qu'ils ont un calendrier difficile. Ils ont joué Manchester City lors de la première journée. Là ils perdent face à Chelsea, 0 sur 6 hein, pour les Gunners.
Ouais, 0 sur 6, c'est un petit peu les mêmes problèmes année après année. Et finalement l'arrivée d'Emery n'a pas résolu les problèmes défensifs. Arsène Wenger l'avait dit avant son départ, le principal chantier de mon successeur ce sera la défense. Et jusqu'ici, face à City, face à Chelsea, on a vu que évidemment rien n'était encore réglé, que ça manquait voilà d'automatisme. Évidemment, ça fait que quelques semaines qu'Emery est là, mais il y a des choses un petit peu qui persistantes entre Wenger et Emery que l'Espagnol doit vite régler. C'est vrai que c'est 0 sur 6, même si le calendrier était compliqué, ça lance pas très bien la saison.
Ouais, prochain match d'Arsenal, ce sera West Ham.
C'est West Ham à domicile.
Voilà. On embrasse Salim Bangali, bien sûr, qui nous écoute et qui nous regarde. Vous êtes étonné ou pas par le début de saison d'Arsenal? Unai Emery qui fait ses grands débuts en Premier League, deux défaites après deux matchs. On le répète, le calendrier, il est pas simple pour Unai.
Bah, surpris, alors, au niveau des nombres de points, c'est sûr que se retrouver à 0 sur 6 au bout de deux journées, quand tu prends la succession de Wenger et que tu as attendu, forcément, bah, c'est surprenant. Après, par rapport aux adversaires, City, ça reste quand même l'ogre de la première ligue. Et Chelsea, et bah, là, on a vu dans ce match tout ce qu'on risque de voir de l'équipe de Sarri toute la saison. C'est-à-dire, énormément de jeux de vitesse, énormément d'agressivité dans le jeu, mais beaucoup d'espace dans le dos. Donc là, c'est sûr que dans ce match-là, bon, ils auraient pu revenir à un partout, rapidement avec l'occasion qu'a loupé Aubameyang. Ils ont pris le second but.
Un truc, il est tout seul devant le but.
Non, c'est pas inquiétant parce qu'il y a de la qualité, mais c'est sûr qu'après, dans le football, il y a beaucoup l'aspect psychologique. Faudrait pas que ça enchaîne avec une troisième défaite ou qu'ils commencent à galérer parce que là, ça va devenir compliqué.
Et les supporters devraient quand même avoir se souvenir que quand Wenger avait pris cette équipe, à ses débuts, ça avait été aussi compliqué de mettre son style en place. Maintenant, il faut être patient.
C'était pas les mêmes supporters, ça.
Non, mais c'est vrai, non, mais.
C'était pas les mêmes.
Non, mais d'accord, c'était pas les mêmes, mais il y avait une nouvelle philosophie, parce qu'il était vraiment venu avec une nouvelle philosophie. Donc,
c'était là, même pire, d'ailleurs, autant où Wenger arrive en 96, c'est le seul étranger, tu vois.
Exactement.
C'est le foot à l'ancienne.
Non, mais je crois que là, les supporters, justement, ils avaient, en voyant arriver Emery, ils se sont dit, ouais, allez, on change. Enfin, je sais pas, il y avait ce côté-là un peu positif.
Ils ont pas
envie de galérer encore, là. Ça faisait 3-4 ans où c'était moyen.
Alors, parlons un peu des franchises également. On a revu Guendouzi, l'ancien Lorientais titulaire côté Arsenal. C'est un peu étonnant, hein. On est en train de découvrir ce gamin finalement.
Oui, c'est pas lui qui est le plus hors de position dans cette équipe d'Arsenal finalement, si on regarde son début de saison contre City, contre Chelsea. Alors, principalement avec le ballon, c'est là où il est le plus impressionnant dans sa personnalité avec le ballon, dans sa faculté à trouver des passes qui cassent les lignes, qui fait des différences finalement avec son jeu de passe. Et c'est très intéressant à 19 ans d'avoir cette personnalité au cœur du jeu en Premier League face à City, face à Chelsea, d'assumer la construction. Alors après, défensivement, c'est logique, il a que 19 ans, il a beaucoup de choses encore à peaufiner, à travailler dans son placement, dans les compensations, etc. Mais ce qu'on voit avec le ballon à 19 ans, c'est costaud, hein, s'imposer en Premier League comme ça en venant de Lorient après deux matchs.
Je pense pas que le rythme, il s'habitue au rythme de la Première League aussi. Ouais. C'est pas évident.
Avec un Kanté plus offensif également, hein, du côté de Chelsea. Alors ça, c'est aussi, hein, c'est la grande nouveauté avec Sarri maintenant.
Ouais, c'est son nouveau rôle, relayeur axe droit maintenant dans le 4-3-3, alors que il jouait plus bas sous Antonio Conte, notamment.
Sarri, c'est deux relayeurs qui vont agresser.
C'est Alan et Jorginho qui est Jorginho.
Ça transpose Alan dans son rôle. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit faire des courses très intéressantes. Ça veut dire qu'il a l'intelligence de jeu pour se projeter vers l'avant, pour aller dans la surface. Par contre, une fois qu'il arrive dans la surface, on sent qu'il n'est pas encore dans sa zone de confort pour prendre les décisions. Il faut penser vite, agir vite et bien.
Mais quand il y aura Kovacic là, à la place de Barclay, qui n'a pas démérité. Ouais.
Mais et attention aussi à l'avenir de Willian. Parce que quand même, il y avait une travail défensif qui faisait Callejon, qui je ne sais pas si Willian serait capable de faire. Donc, pourquoi pas avoir Pedro dans ces rôles-là et Hazard, bien sûr, de l'autre côté.
C'est l'une des raisons des difficultés défensives de Chelsea. C'est beaucoup venu du côté de Willian et Marcos Alonso. Il s'est un petit peu seul et pas très couvert.
Ouais. Et alors, en revanche, il y a d'autres Français pour qui ça se passe moins bien. Giroud est sur le banc.
Il est entré en fin de match.
Ouais, mais pas titulaire non plus, encore une fois.
La Cazette.
Il a manqué deux ou trois occasions intéressantes.
Et en plus, Morata marque.
Il a manqué d'efficacité Giroud, il n'a pas su saisir sa chance pour une fois. Hein. C'est vrai que c'est l'une de ses forces en cours de match.
Autre affiche de cette deuxième journée de Premier League, autre derby du côté de Londres. Tottenham face à Fulham, victoire 3-1 des Spurs. Lucas Moura a marqué notamment, un Trippier qui met un coup franc de taré. Harry Kane qui marque aussi. Alors, il y a pas mal de premières dans ce match. Premier but en Premier League pour Lucas et premier but au mois d'août pour Kane. Ça peut paraître dingue les gars, mais Julien Momon avait préparé la stat. Ce mec n'avait jamais marqué au mois d'août.
Ouais, c'est son 15e match Premier League au mois d'août pour Harry Kane dans toute sa carrière. Il a marqué sur son 49e tir, c'est-à-dire c'est-à-dire que 48 tirs jusque-là, il était mis en échec, il a touché la barre par exemple encore aujourd'hui avant de marquer. Sébastien, t'étais au commentaire,
t'as raté beaucoup de buts, Sébastien.
Ouais, même pas.
Sébastien,
moi je marquais qu'en août, c'est ça le problème. Le championnat était pas commencé.
Et comme le championnat a commencé le 31 août, bah tu vois, c'était relou, mais.
C'est vrai que Sébastien, t'étais moins privilégié.
Quand il a touché la barre, là on s'est dit, non, c'est pas.
Ouais, c'est pas possible.
Bon, après le coach l'avait annoncé, enfin il annonce tous les week-ends.
Il a dit toutes les semaines.
Non mais il a là sur ce match-là, c'est vrai qu'ils ont vraiment bien commencé. Il y a Lucas Moura qui loupe une tête là d'entrée de jeu. Après ils se sont laissés un petit peu endormir. Ils étaient repassés à 3 derrière.
3-5 derrière.
Et du coup, bah ils avaient un joueur en moins au milieu. Et ils ont été en difficulté. D'ailleurs, je trouve que Anguissa a fait une bonne première heure. Et après, quand ils sont repassés à 4 avec l'entrée de Dembélé, tactiquement ils les ont mangés. En fait, il y a eu aucune réaction de la part du coach de Fulham. Et là, on a
Fulham qui a énormément investi pour son retour en première ligue, qui a toujours pas marqué de points.
Mais ils ont une bonne équipe. Je pense que
ouais, ça va venir.
On a vu Seri titulaire également. Le Marchand était titulaire aussi. Plutôt solide le Marchand.
Mais c'est bien de voir Lucas Moura de nouveau buteur.
Bah, il a fait pas mal de changements dans son 11 de départ, Pochettino.
C'est intéressant, c'est qu'il a un peu un nouveau rôle, Lucas Moura, cette saison. Déjà, dès la première journée, où Tottenham jouait en 4-4 dans Losange, c'était le deuxième attaquant avec Harry Kane. Et encore aujourd'hui en 3-5-2, il était le deuxième attaquant. Il tournait un petit peu autour de Kane, avec beaucoup de liberté finalement. Et il a une grosse activité, alors toujours aussi brouillon parfois, notamment sur la tête manquée dans les 6 mètres.
Après, il profite aussi de l'absence de Son qui est pas là. Puis c'était la première fois depuis qu'il arrive à Tottenham qu'il jouait deux matchs de suite en première ligue.
En tant que titulaire. Ouais.
Donc ça va le mettre aussi en confiance.
Je vous donne les autres résultats de cette deuxième journée de première ligue. Cardiff et Newcastle qui ont fait match nul 0-0. Quelle régalade, mon Julien. Leicester Wolverhampton 2-0 pour les Foxes de Claude Puel. Everton qui a battu Southampton 2-1. West Ham qui a perdu face à Bournemouth 2-1. Et demain, il y a les deux Manchester qui jouent.
Ouais, on va voir comment répondre.
City face à Huddersfield à 14h30, sans Kevin De Bruyne qui est blessé pour 3 mois. Et Manchester United à 17h qui sera à Brighton. Et d'ailleurs, demain on reviendra sur RMC Sport 1, sur la relation d'amour ou pas d'ailleurs qu'il y a entre Mourinho et Pogba. C'est assez lunaire, hein, c'est un vrai feuilleton cette histoire entre les deux.
Ouais, mais encore une conférence de presse encore superbe de Mourinho qui a tenu à répéter tout va bien avec Paul Pogba. Je peux pas être plus satisfait envers Pogba que ce que je suis actuellement. Pogba sera encore capitaine demain à Brighton parce que Valencia, le capitaine attitré, est absent. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas à l'intérieur du groupe. Faut dire, c'est vrai qu'il y a des échos qui peuvent ressortir, mais Mourinho, lui, dit que tout se passe bien.
Le groupe vit bien, c'est ça l'expression.
C'est un petit peu ça.
Tu le sais. Et en tout cas, Paul Pogba, il retournera pas en Serie A parce que le mercato est terminé. Il retournera pas à la Juve, Simone Romero. La Juve, qui a redémarré sa saison aujourd'hui, victoire 3-2 à Vérone face au Chievo. Mais que ça a été difficile, Simone, pour la première de Cristiano en Serie A.
Ça a été vraiment inattendu. Surtout que la Juventus avait marqué les premiers buts après 2 minutes avec Kedira. Et on se disait, bon, c'est fait. Déjà, il y avait 4 hommes sur Cristiano. Les ballons arrivaient dans la surface et Kedira peut tranquillement mettre ses premiers buts. Il était vraiment plutôt seul. Regardez, il avait, pour ceux qui nous regardent sur BFM Sport, il était vraiment beaucoup de joueurs.
RMC Sport News. Ce serait bien d'appuyer sur F5, d'actualiser.
c'est vrai. Et moi, j'étais en vacances, donc...
Excuse à la con. Alors, la Juve menait 1-0. Ils ont été menés 2-1 et ils gagnent. Alors, à dire avec une histoire de VAR un peu folle en fin de match, un but de Mandzukic qui a refusé, c'est ça?
Un but de Mandzukic qui a refusé pour une faute de Cristiano sur les gardiens.
Oh là, le coup monté.
Les gardiens, il va bien, il a dû sortir, il est à l'hôpital, il a un traumatisme crânien, mais c'est rien de très grave. Mais quand même, Cristiano Ronaldo, après avoir arrêté presque une frappe de Douglas Costa sur la ligne de but et avoir fait la faute qui a annulé les 3-2. Heureusement, il n'était pas là sur le but de Bernardeschi, donc la Juventus a pu gagner. Mais ce n'était pas une réussite, la première de Cristiano. Pas insuffisante, mais on s'attendait vraiment à voir un Cristiano déjà rayonnante, mais c'était pas vraiment une réussite, sa première.
Vous pensez qu'il va réussir en Serie A ou pas? Franchement, c'est de la prédiction totale, hein, mais quand on connaît son style de jeu, le style de jeu de la Juve et le style de jeu de certaines équipes en Italie également, même s'il y a des équipes qui jouent...
Moi oui, enfin après il a réussi.
Vous avez joué là-bas tous les deux.
Il a réussi partout. C'est un travailleur. C'est quelqu'un où quand on commence à le critiquer, ben de suite il remet tout le monde d'accord. Mmh. Ouais, et puis non, bon, on va jouer aussi pour lui. Donc, ouais.
Non mais déjà il faut pas oublier une chose. Simona va le confirmer. La charge de travail en début de saison en Italie est souvent très très lourde. Sachant qu'ils vont jouer les coupes d'Europe, il y a beaucoup de matchs cette saison. Cristiano, avec son âge, effectivement, déjà qu'il fasse la préparation, c'est déjà très très bien. Moi je crois
qu'il a pas 37 ans non plus.
Il y a quand même
de joueurs plus âgés que lui qui cartonnent en Serie A. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Pendant un moment en Serie A, c'était le cas.
Qui marque beaucoup de buts. Mais attention, Cristiano quand même, il est arrivé déjà très tard, c'est-à-dire comme tous les mondialistes. Il n'a pas fait la préparation avec l'équipe, il l'a fait toute seule avec certains mondialistes. Et après, si je ne me trompe pas, sur les 6 dernières saisons, les matchs de début de Cristiano, il a marqué une seule fois. Donc c'est pas quelqu'un qui généralement il démarre très très fort sa saison. Il arrive souvent à être en forme pour le début de la Ligue des Champions. Et c'est là qu'on l'attend.
En plus, c'est quelqu'un qui se connaît parfaitement. Il sait très bien que le début de saison, c'est pas là où j'ai besoin de briller, c'est pas là où on m'attend, c'est pas à Kiev qu'on m'attend. Il sait que ça va commencer au mois de septembre, octobre, jusqu'en mars, avril, pour vraiment optimiser son transfert.
Ouais. Autre équipe qui a galéré ce soir également, c'est le Napoli face à la Lazio. Alors là, c'était une auto-opposition à Rome pour les Napolitains de Carlo Ancelotti. Victoire 2-1 des Napolitains.
Oui, mais moi, je regarderais l'autre côté, on peut dire, de l'histoire. C'est Napoli qui est sorti un peu d'une piège très difficile. La Lazio avait joué très bien la première 20-30 minutes, avait marqué un but extraordinaire avec Insigne qui se confirme en début de saison d'être un buteur magnifique. Et après, petit à petit, Naples a retrouvé son style. Ancelotti ne veut pas rien, ne veut pas changer le style de Sarri. Il est arrivé tranquillement en disant il y a une base qui est plutôt bonne, on va continuer sur ça. Et l'intelligence d'Ancelotti, c'est surtout de ne pas vouloir mettre sa patte tout de suite sur une machine qui marche très bien.
Donc, un choix intéressant, c'est Hamzik replacé devant la défense. Par exemple.
Et il a fait des comparaisons avec Pirlo en disant je l'ai fait avec Pirlo et j'avais Ambrosini et Gattuso à ses côtés. Ici, il faut trouver la bonne dynamique. Bien sûr qu'Ancelotti va changer quelque chose.
Mais Hamzik, en général, même s'il peut jouer là, il peut jouer registre, mais il aime quand même se projeter, donc ça risque de le
faire. Il faut voir la liaison qu'il y aura entre Alan et l'autre milieu qui ce soir était Zielinski, mais il y a Fabien Ruiz qui va arriver. Mais quand même, globalement, l'équipe d'Ancelotti a joué plutôt bien. Je dirais même très bien en deuxième mi-temps. Il a eu plusieurs occasions. La victoire est totalement méritée. On peut lancer une interrogation, voire un débat. Buteur Milik ce soir, Mertens sera remplaçant. On a l'impression qu'avec Ancelotti, les Polonais arrivent devant en ce moment dans la hiérarchie des buteurs à Mertens qui a fait des très belles choses cette saison. Qui va être le numéro 9 cette année du Napoli? Je crois que Milik peut avoir vraiment la chance d'avoir sa saison titulaire.
Avant qu'il se blesse, c'était le cas déjà, non?
C'était le cas, mais quand même, quand tu as un joueur qui te met 40 buts en deux saisons, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, tu l'oublies. C'est des choix de riches en même temps,
on peut voir aussi.
Il est revenu avant aussi, Mertens.
Oui, on peut aussi hypothéser de voir Mertens à la place de Caleone, pourquoi pas pendant la saison, ou de voir un 4-2-3-1 avec une Amsic et Alan et un joueur en numéro 10. Mais Mertens quand même dans les trois derrière l'attaquant. Ancelotti a un petit problème aujourd'hui à régler, c'est-à-dire la phase défensive n'est pas encore extraordinaire. Il a même dit un peu en rigolant, j'avais appelé Sarri pour demander comment il faisait à faire marcher si bien la phase défensive, mais quand même on commence à voir des résultats. L'équipe est plutôt la même de la saison dernière, mais Ancelotti peut apporter quelque chose en plus.
Merci mon Simonet. Vous restez avec nous, Julien et Simonet. On va aller en Espagne avec Fred Hermel dans quelques instants. Je vous donne juste avant de filer en Espagne quelques résultats également au Portugal, qui est le championnat qui est juste au-dessus de la Liga espagnole, la Liga portugaise, qui est à suivre sur RMC Sport bien entendu. Le Benfica a battu le Boavista à Boavista à Porto, donc 2-0 avec un nouveau but de Pizzi qui n'arrête pas de marquer en ce début de saison. Et ça joue depuis 74 minutes entre le Sporting et Setúbal. Le Sporting mène 2-1 avec un doublé de Nani qui est de retour au Sporting. Allez, on file en Espagne dans quelques instants. C'est reparti aussi en Liga espagnola. Le Barça qui joue en ce moment même face à Alavés, le Barça qui mène, et Fred Hermel va nous expliquer tout ça tout de suite.
Le Super Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Samy Pois, Seb Piocel, Simonet Rovera, Julien Maumont également est avec nous ce soir. On a fait un petit détour par la Première Ligue, par la Serie A également. La Serie A qui a repris ce soir, la Juve qui s'est imposée 3-2 face au Chievo Vérone. Et en Angleterre, il y a eu un derby entre Chelsea et Arsenal. Ce sont les Blues qui sont imposés 3-2. Là aussi, tiens, un petit mot pour vous dire que lundi, c'est la rentrée sur RMC. Vincent Moscato qui est de retour, tout comme Christophe Dugarry. Tous les lundis 20h, le show rugby de RMC entre les poteaux avec Philippe Saint-André, Denis Charvet et Yannick Nyanga, qui rejoint l'équipe cette année. Bienvenue, welcome Yannick. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais d'ailleurs. On va aller en Espagne où ça a repris également ce soir. Le Barça joue face à Alavés. Ça joue, hein. On est pas loin de la 70e minute de jeu. Et Fred Hermel se régale devant sa télé, bien entendu. Salut mon Fredo.
Hola chicos.
Comment il va le Fredo?
Eh ben il va bien.
C'était bien les vacaciones ou quoi?
Ouais, mais c'est oublié maintenant, hein. Je suis rentré il y a une semaine déjà.
Ah ouais, une semaine, c'est...
Bah ouais, puis j'étais à Tallinn.
Oui, je sais.
Attention, Lionel Messi dans la surface, qui dribble, mais il était hors jeu. 1-0 pour le Barça, 75e minute, avec un coup franc extraordinaire de Messi, sous le mur qui a sauté. C'est-à-dire qu'en première période, il y avait eu une frappe de Messi qui avait cherché le qu'on appelle ça la lucarne, et il avait tout trouvé la barre transversale. Puis là, il a dit ben je vais la passer par en dessous, et ils se sont fait avoir les joueurs d'Alaves. À part ça, qui a un petit peu de mal, mais bon, voilà, un petit coup de génie et de Messi, 1-0 face à Alaves. Et puis un Dembélé qui est pas mal du tout. Hein. Je sais pas si vous voyez le match. Mais il est totalement décomplexé et ça fait du bien de le voir comme ça.
Non, on voit pas le match, on fait de la radio nous si tu veux en ce moment donc.
Oui, bah enfin tu peux avoir une petite télé, tu sais je t'explique. Non, t'as pas le droit.
Non, on peut pas.
Ah.
Non, on peut pas Fredo, tu comprends, on peut pas.
T'es qu'on peut pas.
On peut pas.
Par contre mercredi soir, on pouvait.
Ah bah là c'est autre chose.
Ouais.
Voilà, on pouvait.
Tu m'as vu comme j'étais beau.
Bah mais frère, mais même à la radio t'es beau. C'est ça le truc qui est dingue
bah oui,
avec toi.
Bah oui.
Même à la radio t'es resplendissant et t'es rayonnant avec cette petite moustache que j'adore. D'ailleurs tu le sais. Je donne juste quelques résultats également sur cette première journée de Liga. Girona et Valladolid qui ont fait match nul 0-0. Levante qui est allé gagner 3-0 au Betis. Alors ça c'est étonnant.
On
quand on voit
beau,
les
ouais.
stats du match, c'est ça paraît dingue.
Ouais, mais c'est-à-dire que le Betis est l'une des belles équipes de la Liga de la saison dernière. D'ailleurs, ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa. Ils vont la jouer directement. Ils ont terminé devant le Séville, le grand voisin. Et le Betis, franchement, ils se sont bien renforcés, notamment avec Inoui. Vous savez, le japonais Daybar, qui a fait un mondial extraordinaire, hein, qui avait notamment marqué contre la Belgique. Et c'est une équipe... de Betis dont on attendait monts et merveilles, et puis réalisme absolu de Levante, qui est une équipe qui avait souffert pour se maintenir en première division l'année dernière. Mais bon, comme toujours en Liga, il y a des surprises. Donc 3-0 aussi parce que le Betis c'est une équipe qui attaque, hein. Donc après en contre automatiquement elle peut se faire voir, mais c'était un match très très intéressant.
Un partout entre le Celta et l'Espagnol,
sympa.
Ouais,
le Real techniquement...
Là, vas-y, Fredo.
Non, c'est un match effectivement intéressant. C'est deux équipes qui ne vont pas jouer les premiers rôles cette saison, mais c'est un match très agréable à suivre.
Bah, le Celta, c'était un peu outsider ces dernières saisons, là.
Oui, mais là, c'est un peu plus...
C'est chaud, là.
Non, mais c'est... Voilà, enfin, on peut pas dire que ce soit un club qui ait beaucoup, beaucoup de moyens, quoi. Ouais. Donc,
La Real Sociedad qui gagne 2-1 face à Villarreal. Là aussi, un Villarreal qui est un club qui a de l'ambition quand même, hein, cette saison.
Ah, bien sûr. C'est un club qui joue là aussi directement la Ligue Europa, qui espérait entrer dans les quatre qui permettaient la saison dernière de se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, mais on a vu une Real Sociedad très très bien organisée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu une petite erreur de défense qui a permis à Villarreal de marquer le premier but, mais derrière la Real Sociedad qui est entraînée par quelqu'un qu'on ne connaît pas, enfin que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Asier Garitano. Asier Garitano, c'est lui qui a fait le miracle Leganés, et qui est d'origine basque, qui après le magnifique parcours de Leganés, qui était un club, Leganés c'est un club de Segunda B, c'est un club 3 de Détroit, qui vient de faire ses deux premières saisons en première division, et qui la saison dernière a vraiment fait un très très beau parcours. Ils auraient même pu viser l'Europe, et automatiquement, bon, c'est un petit club, donc un entraîneur comme Asier Garitano, on lui propose la Real Sociedad, qui est un club historique en Espagne, bien entendu il a dit oui, et c'est vrai que tactiquement il est très très fort, et ça s'est vu ce soir avec une victoire finalement assez intéressante de la Real Sociedad. Après je me méfie toujours avec la Real parce que ils ont l'habitude de bien démarrer leur championnat, et puis au bout de 6-7 journées ça peut plonger. Mais bon, en tout cas c'est une victoire assez importante.
Alors parle-nous des Madrid, Fred. Alors c'est vrai qu'on les a vus mercredi lors de la Super Coupe d'Europe, et la victoire donc de l'Atlético prolonge 4-2 face au Real Madrid. Demain il y a Real Getafe, lundi il y a Valence Atlético.
C'est la fiche du week-end, hein.
Ouais, le Valence Atlético, c'est vrai que c'est pas mal, hein, pour une première journée. Ce sera lundi. Il y aura également Bilbao Leganés. Mais juste ce Real Getafe. D'abord, comment les Madridistes, comment les joueurs du Real, comment Lopetegui a digéré cette défaite en Super Coupe de l'UEFA?
Bah pas bien, hein. Pas bien, parce qu'ils n'ont plus l'habitude. C'est-à-dire que depuis 2000, le Real Madrid avait joué 13 finales, ils avaient toutes gagnées. Donc, ça la fout mal. Voilà, les gens ont pas de mémoire, c'est un truc hallucinant, quoi. C'est-à-dire que en rentrant de Tallinn, moi j'étais dans l'avion, j'ai croisé, il y avait beaucoup de supporters de l'Atlético et du Real qui voyageaient, beaucoup de gens d'ailleurs qui voyageaient ensemble, des potes de deux équipes, et les types me disaient ouais, quand même, on a perdu, nana. Je dis bah attendez, mais vous venez de gagner 4 Ligues des Champions en 5 ans, voilà. Ah non, mais c'est oublié. C'est-à-dire que les types, ils recommencent la saison, les supporters, et tout ce qui a été fait, ça n'existe plus. Maintenant, il faut regagner de nouveau, etc. Donc, ils ont très mal vécu cette défaite contre l'Atlético. Donc, ça va provoquer des recrutements, quoi. Un recrutement d'ici la fin de saison.
Alors, j'ai vu que le PSG voulait un neuf, c'est ça? Il veut recruter un avant-centre.
Ben, c'est-à-dire que pour lui, c'est clair, son numéro 9, c'est Benzema. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il veut quelqu'un sur le banc autre que Mayoral. Donc il aime bien Rodrigo Moreno de Valence, qu'il avait d'ailleurs
qui est formé au Real, je crois, d'ailleurs, à la base.
Oui, puis qui avait été son attaquant de pointe
Avec les jeunes, ouais.
Avec les jeunes, ouais. Avec les espoirs, et c'est lui qui l'avait emmené au mondial. Voilà, donc Rodrigo Moreno, c'est un bon joueur quand même, hein.
Ouais.
Hispano-brésilien et voilà, mais après
ah, il est passé par la Castilla, hein, non.
Ouais, contrairement à ce qu'on croit, on ne cherche pas un remplaçant de Benzema. On cherche une doublure, quelqu'un qui pourrait être intéressant sur le banc. Pas parce que Lopetegui adore Benzema. Je peux même vous dire que quand Lopetegui était à la cellule de recrutement du Real Madrid, il avait chaudement recommandé, il avait fait un dossier, un rapport pour dire il faut engager Benzema quand il était à Lyon. C'est pour dire. Et il aime beaucoup ce que fait Benzema. D'ailleurs, Benzema fait un bon début de saison. Bale, il est appelé à être le remplaçant de Cristiano Ronaldo. Et pour l'instant, ça va pas trop mal, en tout cas dans le jeu et dans les buts. Le problème qu'il y a eu contre l'Atlético samedi, enfin mercredi à Tallinn, c'était la défense qui a fait n'importe quoi. Donc
ouais. Enfin moi, alors je sais, on va pas forcément être d'accord là-dessus. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire en Lopetegui comme entraîneur de club. Moi, je l'ai vu. Alors il a eu son expérience à Porto, notamment. Ouais. Ce qu'il avait vécu en tout début de carrière au Rayo Vallecano, ça n'avait pas été un succès non plus. Mais au quotidien, dans les rapports avec les joueurs, c'est un autre boulot, hein, sélectionneur et entraîneur aussi.
Tout à fait d'accord.
Je sais pas ce que vous en pensez, ça, mais et Seb, vous y croyez, vous, à Lopetegui au Real?
Là, c'est un gros challenge, hein, surtout que.
Comme
l'a dit Fred, il arrive à un moment où c'est difficile de faire mieux. Il faut garder la barre très haute. Et en plus, c'est un rôle complètement différent. Il y a, bon, c'est vrai que Ronaldo est parti, mais il reste quand même des égos hyper importants dans le vestiaire. Est-ce qu'il va avoir la carrure et le charisme pour gérer ça aussi, parce qu'il y a pas que l'aspect sportif, hein.
Ouais, mais il a les boss du vestiaire avec lui, hein, c'est les Espagnols. C'est-à-dire commencer par Ramos, ils sont très proches.
Ouais, mais moi j'ai envie
de croire déjà, quoi.
J'ai envie d'y croire parce que pourquoi, comme vient de le dire Fred, je veux dire, en sélection, il les a pratiquement tous. Il les connaît déjà, je trouve qu'il a réussi à faire quand même.
Enfin non, attends, je te coupe ça, mais là Modric veut se barrer, il l'a pas en sélection.
Modric, il voulait des thunes, Lisa.
Ouais, c'est voilà, vrai, il reste. Je crois qu'il est passé à.
Voilà.
Il y a pas mal d'étrangers quand même. Marcelo, il y a des leaders aussi.
Marcelo, c'est pas un étranger. Et deuxième but, très beau but de Philippe Coutinho.
Ah.
2-0 pour le Barça.
Ouille.
Non, je pense que ça va aller. En plus, sur ce premier match, il faut pas s'inquiéter. C'est comme aujourd'hui la Juventus qui a pas été rayonnant. Mais ces clubs-là, encore une fois, la charge de travail en début de saison est quand même très très lourde. On leur demande beaucoup. Et je pense sincèrement que on pourra s'inquiéter éventuellement au mois d'octobre, au mois de décembre, si ça grince un peu. Mais je pense que au niveau relationnel, Lopetegui peut faire aussi bien que Zidane.
Moi, je le connais bien, Lopetegui, hein. On se connaît depuis on a fait le mondial 2006 ensemble sur une télé espagnole. Et c'est vraiment un bon mec.
C'est avec toi qu'il est tombé dans les pommes, là?
Ouais.
Ah, c'était là?
Ouais, c'était là. Ouais.
Sans déconner, t'étais là.
Ouais, c'était là,
bien sûr. Buzz de dingue. Lopetegui est super connu dans le monde entier parce qu'il était à la télé en train de faire une palette sur un écran.
C'était la veille du début du mondial allemand.
Et il tombe, le mec, il tombe, bim.
Ouais, il a eu une baisse de tension, il faisait chaud dans le studio.
On va essayer de refaire la même demain sur RMC Sport.
Le stress du début à la télé. Enfin, moi, j'étais au maquillage au moment où ça lui arrivait. Et vous savez, alors, ce qui est génial, on verra. Il tombe et Valdano, qui est sur le plateau, dit: je l'ai pas touché. Il y a pas fait long. Je vous jure que c'est vrai. Donc, on va voir, mais après. Lopetegui, il est très aimé. On a raison, il est très bien dans le vestiaire, mais si ça gagne pas demain, commencer déjà. Oui, est-ce qu'il a le niveau? Franchement, sincèrement, en tout cas, on peut reconnaître qu'il a quand même un sacré courage, parce que passer derrière Zidane, qui vient de remporter 9 titres en 2 ans, dont 3 Ligues des Champions de suite, il faut quand même, voilà, avoir des bonnes coronets, ouais, comme on dit.
Il faut, ouais, être fou, quoi.
Bah, je sais pas s'il faut être fou, en tout cas être aussi se dire que le train du Real il passe une fois dans sa vie, qu'il faut le prendre, quoi. Donc,
Ah bah là il a tout largué, hein, c'est-à-dire y compris sa sélection, ah bah, hein, pour y aller.
Bah,
hein,
c'est pas de sa faute.
Femme enfant.
Fred, moi j'ai envie qu'il fasse jouer Vinicius. Moi je sais pas, je pense que c'est.
Attends,
c'est,
il est jeune, ça va venir.
Il a 18 ans. Hein.
Ouais, ça va venir.
Bah, alors 18
Fredo,
ans.
Faut qu'on y aille, mon Fredo.
Il a les qualités pour jouer. Hein.
Ah, attention, Luis Suarez le retourne à côté.
Attention.
Toujours 2-0.
Maintenant, mon Fredo. Bonne soirée, Fredo. Merci.
Adios, chicos.
Merci, bisous.
Ciao, Fred.
Tiens, quelques petites infos quand même. Juste vous dire que Amine Gouiri, le joueur de l'OL, souffre d'une rupture isolée du ligament croisé antérieur interne du genou gauche. En gros, il en a pour 6 mois, quoi. Gouiri, très mauvaise nouvelle pour l'OL qui hier, on vous le rappelle, a perdu 1-0 face à Reims. Et tiens, petite info également mercato qui concerne Kostas Mitroglou. Marseille jouera demain à 21h à Nîmes. Mitroglou qui est annoncé au Beşiktaş par la presse turque. Le joueur réagit sur Twitter. C'est très rare, hein, que Mitroglou s'exprime ainsi. Enfin, s'exprime tout court d'ailleurs. Merci pour vos messages. Je n'ai pas pour habitude de commenter les rumeurs. La seule chose qui me préoccupe en ce moment est de gagner à Nîmes et de vivre une meilleure saison que la dernière. Forza OM. Donc visiblement, il a envie de rester, hein, Mitroglou. Hein. Il partira pas de l'Olympique de Marseille. Il y a souvent les débats sur le fameux grand attaquant de Marseille. On y reviendra d'ailleurs, hein, avant le match face à Nîmes. Demain, on aura pas mal d'invités avec nous aussi. C'est déjà fini, les mecs.
Non.
Ah ouais, c'est triste. Hein. C'est déjà fini. Bon. Merci, Samy Pois.
Merci, Nicolas.
Merci, Seb Piocel.
Merci à vous.
Merci, Sim Rovera.
Bon matin.
Merci, Jumeau.
Merci,
et on vous dit à demain, bien entendu, pour l'after. N'oubliez pas la suite de la Première Ligue sur RMC Sport 1 demain, prise d'antenne à partir de 14h. Voilà, il aura un EPAP, Julien, demain, c'est promis. Allez, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci à toutes et à tous. On vous dit à demain. Bisous et ciao, ciao.
RMC, le Super Football Show, l'after foot.